Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien au Capi Service. En RDC, certains individus se font passer pour des recruteurs et soutirent parfois de l'argent aux candidats demandeurs d'emploi. Dans bien des cas, c'est seulement après avoir été escroqué que les candidats se rendent compte qu'il était victime de faux recruteurs, car ces derniers n'ont de loin ni qualité ni titre pour engager ou embaucher les gens dans des entreprises, des agences des Nations Unies. Alors, que faire pour ne pas être victime des escroqueries, des faux recruteurs? Nous en parlons avec le professeur David Patin. Nous rappelons qu'il est spécialiste en ressources humaines. Bonjour une fois de plus.
Bonjour.
C'est vrai que dans le domaine de l'emploi, en ce qui concerne notamment le recrutement, il y a beaucoup d'escrocs qui profitent de la vulnérabilité des demandeurs d'emploi.
Ok, effectivement. Mais parce que simplement, il y a une structure du marché de l'emploi qui est atypique. C'est que c'est derrière cette structure qui a fait naître le fameux, effectivement, recruteur que moi je qualifie de fantômes, des avatars.
Vous voulez parler de l'ONEM ?
Non, je parle du marché de l'emploi congolais de manière générale. C'est-à-dire que c'est un marché qui est vraiment très atypique. Il n'y a pas assez d'emplois, mais il y a beaucoup de chômeurs. Et chaque fois, chaque année, nous avons des milliers, n'est-ce pas, de sans-emploi qui s'ajoutent. Cette situation d'asymétrie fait que les gens, d'un côté, vous avez un grand nombre de gens qui ont besoin d'emploi. Et d'un autre côté, vous avez également la souffrance, le manque d'emploi amène certaines personnes à pouvoir, n'est-ce pas, créer des dispositions pour se faire de l'argent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des arnaqueurs, ou également, carrément, moi je les appelle, n'est-ce pas, des vendeurs fantômes, des avatars. Ils sont vraiment très fantômes.
Pourquoi? Des vendeurs d'illusions, ils sont là pour
arnaquer
la population. Oui.
Des vendeurs de charme, ils sont là pour arnaquer la population et pour présenter effectivement des faits hallucinatoires. Donc des faits qui ne sont pas vrais, n'est-ce pas? Parce que simplement, la psychologie, n'est-ce pas, des chercheurs d'emploi est tellement que, par manque d'emploi, la souffrance et la crise, ils sont prédisposés, n'est-ce pas, à écouter tout type d'information qui l'air, n'est-ce pas, nourrit de l'espoir en termes, n'est-ce pas, de l'octroi d'un emploi. Alors, ce qui fait qu'ils se laissent emporter par tout vent et des fois, ce n'est pas de leur faute.
Même les intellectuels se laissent parfois berner.
Évidemment, mais pourquoi? Parce que ces vendeurs de charme, ils utilisent les fonctions psychiques de l'être humain, sachant que ce type d'individus n'ont pas d'emploi. Ils sont dans une situation de recherche, ils sont dans la crise, et donc ils sont prêts, n'est-ce pas, à se laisser emporter. Et ils utilisent un message convenant, approprié, qui nourrit de l'espoir. On vous appelle, par exemple, on vous envoie un SMS, moi j'en ai déjà reçu. On vous dit, voilà, par exemple, la fois dernière j'ai reçu l'UNICEF, recrute plusieurs postes, veuillez nous contacter rapidement. Et la semaine passée, j'ai reçu encore un autre message qui me dit « Le PNUD recrute rapidement, veuillez contacter. » Et une fois, moi, par curiosité, j'ai appelé le monsieur d'UNICEF, je l'ai écouté, j'ai dit « Monsieur, à qui tu t'adresses? Tu sais la personne à qui tu t'adresses ?» Alors, il me dit « Non. » J'ai dit « Mais monsieur, celui que tu es en train d'appeler, il est spécialiste en recrutement et il a mobilisé plusieurs recrutements de l'UNICEF. » Alors, il m'a injurié. Vous imaginez, il m'a injurié.
Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en face de quelqu'un qui s'y connaît.
Effectivement, il a coupé, et puis quand j'ai relancé, tout ça, etc. Donc, ils exploitent les fonctions psychiques des individus, le besoin d'emploi, la pauvreté, la nécessité, effectivement, à tout prix, n'est-ce pas, de trouver un moyen d'emploi. Alors, comment vous allez les reconnaître? Il y a des principes qu'il faut savoir. Premièrement, toute entreprise sérieuse n'a pas besoin de l'argent d'un candidat pour fonctionner. Ça, c'est le premier principe. Deuxième, le recrutement est toujours payant. Et c'est l'entreprise qui va mobiliser des fonds, qui va développer
une équipe qui va s'occuper de ça.
Et l'équipe est payée. Si l'entreprise ne veut pas elle-même prendre cette charge, l'entreprise va recruter une agence spécialisée comme Sodeco pour piloter le processus. Troisième principe, et l'entreprise ou l'agent spécialisé. L'agent spécialisé est payé par l'entreprise qui demande les services. C'est tout un service. Donc, et l'entreprise et l'agence, aucune d'elles ne peut vous exiger une somme d'argent. Un autre principe important, c'est que les candidats qui cherchent l'emploi n'ont pas d'argent. Il n'en a pas. Puisqu'il n'en a pas, donc...
Il ne peut pas commencer d'emblée à payer de l'argent.
Ce qui nous amène, n'est-ce pas, à comprendre que toute information qui ne respecte pas ces principes que nous avons édictés, c'est une fausse information, c'est un faux emploi. Donc, à partir du moment où on commence à vous raconter une histoire du genre envoyer des unités, payer quelque chose, envoyer de l'argent, c'est vraiment du pire faux.
Mais une autre difficulté aussi, M. David, est que certaines entreprises ne publient pas les avis des vacances de poste. C'est l'info circule des bouches à l'oreille et puis parfois les gens se laissent profiter de cette situation pour arnaquer des demandeurs d'emploi.
Ça, justement. Mmh. Mais même dans ces contextes-là, parce que quand l'entreprise ne fait pas publier, parce qu'il y a deux sources de recrutement. Il y a la première source qu'on appelle le recrutement interne. C'est-à-dire, l'entreprise constate qu'il y a un poste vacant et il mobilise les recherches pour trouver les ressources en interne des gens qui sont aptes à pouvoir travailler ou même des gens qui avaient déjà fait ce qu'on appelle des candidatures spontanées. Exploite tous ces éléments-là. Mmh. Deuxième source, c'est en externe. Alors, lorsque le recrutement est en interne, l'entreprise n'est pas obligée de pouvoir rendre public, n'est-ce pas, l'offre d'emploi.
Oui.
Mais l'entreprise peut le rendre public que dans des cas où en interne, on n'a trouvé personne pour voir les postes. C'est ainsi qu'il faut chercher en externe. Alors, mais il faut aussi le dire que même dans certains cas de figure, ça c'est on observe ça dans la plupart souvent des structures étatiques
oui,
où
dans l'administration publique,
il y a des recrutements sous table. C'est-à-dire qu'il y a des postes, vous allez voir des gens respectés, dire que voilà, par exemple, la fonction publique ou dans telle structure, on est en train d'ajouter des gens, etc. Et les gens s'emportent. Et des fois, peut-être, ce sont des faits vrais où il y a une histoire d'argent qui circule, etc. Donc ça, ce sont des situations. Mais pour éviter tout cela, les entreprises ou des structures devraient, n'est-ce pas, utiliser des canaux de communication officiels, n'est-ce pas? Si vous savez qu'il s'agit d'un recrutement en interne, prenez les dispositions qu'il faut. Mais si également il y a c'est un recrutement en externe, il faut aussi communiquer largement possible. Utiliser des canaux, n'est-ce pas, modernes aujourd'hui, pour éviter des suspicions et également exposer, n'est-ce pas, les pauvres candidats, n'est-ce pas, à la face, n'est-ce pas, des arnaqueurs.
Et dans les réseaux sociaux également, c'est vraiment une plateforme dans laquelle beaucoup d'arnaqueurs, des escrocs, là, dans le domaine des recrutements, diffusent les informations pour des personnes qui sont à la recherche de l'emploi.
Mais vous savez que les nouvelles technologies de l'information, de la communication, ont fait exploser beaucoup de pratiques et ont même créé des pratiques nouvelles qui n'existaient pas dans les temps.
Oui.
Vous allez voir, par exemple, des gens qui se sont bien organisés pour créer des adresses mail, n'est-ce pas, pour, soi-disant, envoyer des messages aux gens, etc., en termes d'emploi, etc. Déjà, le premier réflexe, quand vous voyez une structure qui utilise des boîtes, des références comme Yahoo, Gmail, etc., ce n'est pas une structure sérieuse. Une entreprise sérieuse a toujours comme équation, n'est-ce pas, son identité. Vous verrez par exemple...
Les initiales de son entreprise.
De son entreprise. Vous verrez par exemple, on vous dit sodeico.org, ok?
Oui.
Ou par exemple, je donne un exemple, patac@sodeico.org. Mais si vous voyez déjà un certain patac@gmail,
Ça c'est individuel,
ouais. Il ne faut pas donner du crédit, c'est de pire forme d'aventure. Ce sont des aspects effectivement qu'il faut toujours être très attentif en termes de présentation d'informations, même la manière dont l'information est présentée. Vous verrez les adresses mail utilisées pour envoyer votre CV. S'il s'agit des adresses mail le plus souvent du type classique, comme les Yahoo, le Gmail, etc., les excite.com, il ne faut pas faire confiance. Ça laisse doute, n'est-ce pas, à des suspicions.
Et lorsque la réception du dossier est conditionnée par de l'argent, ça c'est...
Moi, j'insiste sur le fait que les recrutements est toujours gratuit de la part des candidats et payant de la part des agences de recrutement. C'est payant par rapport au contrat signé entre l'agence de recrutement et l'entreprise demanderesse. Donc, si une entreprise ou une agence ou un individu vous présente un emploi moyennant l'argent, c'est de l'aventure, il ne faut pas vous laisser entraîner. Et d'ailleurs, moi je recommanderais aux gens de dénoncer. Il faut dénoncer ou vous piégez la personne, vous l'arrêtez. Parce que dans une des provinces déjà, il y a eu, n'est-ce pas, un aventurier qui est allé lancer, il a même entraîné, mobilisé.
Un recrutement.
Mobiliser même le gouverneur de la ville.
Au nom de quelle entreprise?
Même, il a fabriqué. Et puisque, effectivement, vous savez que nous sommes cupides, hein, le gouverneur à l'époque, il s'est emballé, parce que lui-même se disait qu'il va lui donner le nom de membre de famille. C'était une bonne occasion pour lui de réduire la crise dans sa famille. Le gouverneur était emballé. Et puis après, le monsieur, après avoir recueilli un bon nombre, n'est-ce pas, d'argent, des sous, porté disparu, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. C'est à ce moment-là que tout le monde a compris. Et tout le monde, vous comprenez. Donc, il y a des aspects importants qu'il faut savoir. Nous avons vu la fois dernière dans une des provinces du pays, un monsieur en train de manipuler un grand nombre, n'est-ce pas, de CV, en disant qu'ils vont créer. Mais vous allez créer, pourquoi vous précipitez
le recrutement?
Alors, ils vont créer quoi? Regardez l'aventure, ils disent, en même temps, un hôpital, en même temps, une grande entreprise, en même temps...
Dans le domaine agricole,
dans le domaine d'industrialisation. Mais ça, et ça a été difficile, moi j'ai regardé. Mais c'est des choses de l'aventure, tout ce genre de choses.
Comment démasquer les faux recruteurs dans les domaines de l'emploi? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94 et au numéro 081-890-63-94 et nous vous rappellerons pour intervenir en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Nous allons commencer par Glody Bouanganga qui nous appelle des Bandundouville. Monsieur Glody, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Oui, bonjour Monsieur Tati Mabuku, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capi.
Nous parlons de comment détecter les faux recruteurs dans le domaine, en fait les faux recruteurs dans les domaines, comment de recruter des escrocs dans le domaine de recrutement des agents. Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, messieurs les journalistes. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont escroqués par ces genres de choses. Vous allez se rendre compte que surtout dans des réseaux sociaux, il y a toujours des offres d'emploi, il y a des demandes de bourse. Et ces gens-là, si vous demandez une bourse au niveau de l'internet, on vous dit non, avant de voir cette bourse, il faut payer d'abord 1 000 $. Mais comment voulez-vous quelqu'un qui a besoin d'étudier dans une faute de l'État, il puisse payer encore de l'argent? Ce sont des choses vraiment inacceptables et il y a beaucoup de Congolais même qui sont escroqués sur toute l'étendue des Républiques démocratiques du Congo. Même ici dans la ville de Bandung, il y a trop d'escrocs qui sont en train de manipuler les gens par des genres de choses. Alors je pose la question à notre invité. J'ai plus ou moins beaucoup de questions que je vais poser. La première question. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour détecter un aventurier ou encore quelqu'un qui n'est pas compétent de ce qu'il est en train de vous dire? Peut-être aujourd'hui, vous allez se rendre compte que quelqu'un comme il a le choix d'avoir l'emploi. Quelqu'un qui vient, voilà, et si tu as besoin de trouver l'emploi dans telle place, voilà, il faut me donner autant de montants. Comme ça, et à ce moment-là aussi, il est précipité du fait qu'il a le goût d'avoir l'emploi. Il va pas vérifier, il est là, il va donner directement. Et à la fin des comptes, il va se rendre compte qu'il était escroqué. Alors, ça c'est d'abord la première question que j'ai voulu poser à notre invité. Est-ce qu'il peut nous aider? Quels sont les critères à comprendre réellement pour détecter si tel monsieur ou telle personne est aventurier? Ça c'est d'abord de 1. E2D. Vous allez se rendre compte qu'au niveau des réseaux sociaux, moi-même qui vous parle là, je suis victime de ça. J'ai reçu un message sur mon compte Twitter. Il y a un monsieur là qui me dit, voilà, il y a des bourses de plus pour ici. Si tu as besoin d'avoir cette bourse, il faut payer plus ou moins 1 500 $ par notre banque, tout ça, pour avancer. Mais je lui ai dit, mais moi je suis étudiant, je n'ai pas d'argent. J'ai besoin d'avoir les bourses. Mais comment est-ce que je vais payer encore le 1 500 $? Je vais trouver ça où? Directement, il m'a bloqué sur mon compte Twitter. Alors je me suis rendu compte que ce monsieur là, il était aventurier. Alors, je pose la question de savoir comment détecter les genres des adresses humaines, de savoir telle adresse humaine n'est pas de telle organisation, ou encore quels sont les critères qu'on peut créer une adresse email d'une entreprise sérieuse? Ça, c'est d'abord la deuxième question que je vais poser. Parce qu'il y a trop d'adresses email, vous allez se rendre compte que Yahoo, Twitter, tout ça, des gestions comme ça. Alors, si l'invité peut nous aider à ces deux questions, enfin, on puisse comprendre les choses. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a beaucoup de Congolais qui sont escroqués au niveau des réseaux sociaux sur des Facebook. Vous allez se voir que quelqu'un qui sur Facebook qui dit « Je donne des porte-monnaies magiques, si vous avez besoin de ceci, il faut payer autant, tout ça. » Même ici dans la ville, partout les gens sont escroqués. Du fait qu'il y a une carence financière qui se bat à notre pays, alors les gens ont tendance à avoir toujours de l'argent dans des voies malhonnêtes. Alors c'est ça aussi, il y a beaucoup de Congolais qui sont escroqués. Alors si vraiment notre invité peut nous aider, je crois à ce moment, ce que nous sommes en train de parler maintenant, ça peut éradiquer certaines choses dans notre pays et ça peut aussi éduquer les Congolais. En fait, on puisse se comporter de la sorte. Parce que les Congolais, vraiment, ils sont escroqués parce qu'ils ont assoiffé d'avoir de l'argent.
Merci beaucoup, Glody, merci beaucoup. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Bandundu. Nous restons dans cette même ville pour donner cette fois-ci la parole à M. Malonga. Bonjour.
Bonjour Tati, et bonjour à notre invité et à mon confrère Glody Bonganga.
Allez droit au but, quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Bon, j'ai seulement une question.
Oui.
Mais avant de demander ça, Tati, tout ce que l'invité a commenté là, en tout cas moi je considère que ce sont des propos volants.
Ah bon?
Pourquoi? Je m'excuse d'abord devant lui, puisque le pays, il faut d'abord analyser l'état du pays. Est-ce que l'invité peut me dire autre pays qui subit la même situation que nous subissons ici? Cela montre que nous, les Congolais, nous sommes vraiment à la recherche d'emplois qui ne se présentent pas sur nous. Raison pour laquelle nous tombons souvent à cette situation. L'exemple que l'invité voulait expliquer, c'est nous, c'est la vie, c'est ici que nous avions subi ça. Il avait un aventurier qui était venu ici. Il a fait même plus de 2 semaines en train de recruter $20 et moi aussi j'avais donné plus que les autorités, tout. Il a manipulé même le véhicule des autorités. Après cela, il était disparu dans la nature. Alors, pour détecter ça, pour nous la population, c'est très difficile puisque nous sommes dans le besoin d'emploi. Pour anéantir ça, il faut que le pays et le gouvernement multiplient des emplois. En fait, que c'est par là où la population saura que nous sommes habitués à ce tel emploi gouvernemental. Mais ça, non. Ça sera très rapide. Alors, je vais demander ceci. Si une fois, ces messieurs-là, ces farceurs-là, ces menteurs-là sont détectés, quel est le sort du gouvernement? Mais nous voyons parfois que s'ils sont connus, mais ils sont comme ça. C'est comme s'ils travaillent en connivence avec quelques autorités pour escroquer la population qui souffre souvent. Alors là, c'est une charge gouvernementale qui doit bien protéger sa population. Ce n'est pas toujours la guerre à l'Est ou bien ça.
Monsieur Malonga, vous dites qu'on vous avait demandé $20 lorsque vous étiez en train de chercher le boulot. Est-ce que ce monsieur avait un bureau bien établi ou c'était une négociation sous un arbre?
Non. Il était arrivé. En tout cas, il s'est bien préparé, le taxi. Arrivé ici, il a loué une maison. En tout cas, une maison à Sopabande, là où il y avait l'usine de la bière. Il était bien emplacé. Et ses imprimés, c'était conforme à l'original. Et il avait aussi ses adresses et email. En tout cas, c'est très bien. Il avait affiché toute la ville, l'offre d'emploi. Lorsque nous avions lu là, tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde est laissé ici, à Bandunduville. Et nous étions victimes. Et d'abord, il y avait une maman, une veuve, maman Caro, qui lui a appris que c'est sa cuisinière. En tout cas, la maman là, elle avait toutes ses sacs de manioc et toutes ses provisions. Elle a vidé ça en croyant qu'après cela, elle va bien gagner. Mais jusqu'à présent, Il est parti, la maman était restée vraiment, non, à demi-mort. En tout cas, pour la population, en tout cas, Tati, c'est très difficile à détecter, c'est très difficile.
Merci beaucoup, Malonga. Merci beaucoup, M. Malonga. Merci pour votre témoignage et la question que vous avez posée à notre invité. Allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à M. Jérémy. Bonjour.
Bonjour, M. Tati. Bonjour également, bien évidemment, à notre invité. Le sujet vraiment est pertinent. Alors, moi, je me dis, il y a deux choses. Deux tableaux qui se présentent. on voit d'un côté un réseau bien démantelé des gens qui opèrent. Nous pouvons dire qu'ils ne sont pas différents des voleurs à main armée que nous connaissons au jour des jours, parce qu'ils sont en train d'assommer les paisibles citoyens. En plus de la souffrance que mène le peuple congolais, ces gens sont en train vraiment de laisser les enfants de le peuple congolais en difficulté. Qu'est-ce que moi je vais dire? La justice doit ouvrir l'œil et le bon. Ça, c'est la première des choses. Tous ces gens-là, lorsqu'ils sont démantelés, tous ces résultats, où est-ce qu'on les place? Dernièrement, c'est comme ici à Lubumbashi, vraiment c'est devenu une monnaie courante. À chaque jour qui passe, il y a un monsieur qui se lève et qui vient, je me demande avec quelle bénédiction il est ici pour toquer aux portes de qui que ce soit, pour ne plus que tromper, pour octroyer de l'emploi aux gens. Il y en a même qui ont essayé, dire qu'il y a même un monsieur qui a même imité la signature des autorités. Ça, c'est vraiment punissable pour la justice. Je pense qu'on ne peut pas imiter la signature de nos autorités pour travailler sur leur tête et pour dire que non, nous allons octroyer de l'emploi. Et alors, nous en interpellons le ministère qui a la charge de l'emploi, qui a en charge de l'emploi, d'ouvrir l'œil et le bon, mettre les choses sur le point, et aussi nos amis des réseaux. Ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une certaine discipline, une certaine conduite, une bonne conduite dans la gestion des réseaux sociaux. Sinon, ça ne va pas. Il y a une dérive totale. Et cela risque d'embraser tout un pays parce qu'on ne sait pas qui vient dans le pays et qui y vient faire quoi et avec quel objectif, pour quelle finalité, parce que c'est après tout le peuple congolais qui en pâtit. Et alors, je voudrais, M. Tati, demander quelque chose.
Allez-y rapidement.
Je voudrais dire ceci. Il faut maintenant connaître ce maître, ce sont nos autorités. Vous savez que le gouvernement, il est le seul qui imprime une certaine politique que tout le monde doit suivre. Il revient au Premier ministre avec son gouvernement. Surtout celui qui est en charge de tel domaine, de mettre vraiment de l'ordre, punir sévèrement tous ces coupables-là. Parce qu'il y en a, soit c'est un neveu d'un ministre ou un neveu de qui que ce soit, il se lève pour agir au nom de... Non, en tout cas, ce pays n'appartient pas à une seule catégorie. Là, il faut qu'on sache la réalité. Le pays appartient à nous tous et il revient à chacun de bénéficier les droits qui lui sont dus et non contourner la situation. Il y en a des partis qui en ont empathie.
Jérémy, s'il vous plaît, est-ce que personnellement, vous, il vous est arrivé d'être victime de ces phénomènes?
Oui, mais moi, j'étais très malin parce que on ne peut pas tromper n'importe qui. Il y a un monsieur qui a appelé au téléphone pour me dire que non. Écoutez, et il m'a même appelé sous mon nom. C'est ce qui m'a étonné. Monsieur Jérémy, j'ai une entreprise. Je préfère que je vous place là-bas parce que vous avez fait le marketing et vous avez fait ceci. Je vais vous placer là-bas comme entrepreneur et vous devez diriger ceci. Et il faut que vous envoyez ceci dans les... J'ai dit, monsieur... Il ne faut pas tromper au grand jour, monsieur. Il faut chercher une adresse fixe pour pouvoir tromper. Monsieur Tati, je trouve qu'il faut éduquer le peuple congolais.
Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Merci beaucoup. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Monsieur David, presque tout le monde a une expérience amère concernant...
Effectivement. Et je prends d'abord la question de notre ami qui a dit... c'est...
Qui c'est Lodi Wamara?
Non, oui, Malonga devant nous. En fait, il nous pousse à nous poser une question à haute voix. Est-ce que ce phénomène est une réalité exclusivement congolaise? Moi, j'ai dit non. Même en Europe, il y a des vrais escrocs, des anarchaires. Il y en a. Mais sauf que chez nous, comme j'avais dit tout au début, nous sommes dans un type de marché d'emploi qui est atypique, qui n'est pas bien structuré, où vous avez... Il n'y a pas assez d'emplois, mais il y a un grand nombre
de demandeurs
d'emploi. Et chaque année, vous avez des milliers qui s'ajoutent provenant de nos universités. Donc, ce que je dis, cette asymétrie psychologiquement affaiblit déjà le demandeur d'emploi
et
les expose à tout type de formation par rapport à l'emploi. Deuxième, cette situation a créé, n'est-ce pas, des hommes courageux dans un mauvais sens pour pouvoir exploiter les autres. Alors, ce qui m'amène à rejoindre l'autre question, est-ce que ces gens viennent des familles, des autorités? Non! Ces escrocs
ou des aventuriers viennent de toutes les catégories sociales. Et les plus souvent, même des catégories sociales des gens qui sont effectivement, comme nous, des demandeurs d'emploi.
Oui.
Et alors, comment les détecter? Mais c'est, donc, comme j'ai dit, comment les détecter et savoir la qualité d'une adresse mail? Il faut d'abord, premièrement, être regardant. Une entreprise sérieuse ne peut pas utiliser des adresses classiques du type
Gmail,
Yahoo, Gmail, etc. Ouais, voilà. L'entreprise sérieuse a d'abord son propre site, et puis après, vous avez également un site dédié et des adresses dédiées du type genre, comme j'ai dit, rec@sodeico.org. Exemple. Donc, dès qu'à partir du moment déjà vous commencez à constater que l'adresse qu'on vous demande pour envoyer les dossiers, c'est une adresse privée, du type Yahoo classique, soupçonnez déjà qu'il y a une
quelque chose de pas sérieux, oui.
Un autre élément important, en réalité, les offres d'emploi sont avisées par l'ONEM, en réalité. Donc, un autre élément, si vous sentez que vous avez des doutes sur une offre publiée, vous n'avez qu'à vous informer auprès du bureau de l'ONEM qui est dans votre province, pour demander effectivement, parce que il devrait passer par le bureau, si tout si c'est affiché, il devrait passer par le bureau, ou même si pas affiché, mais l'ONEM doit être au courant, c'est-à-dire que ces gens devaient passer à l'ONEM pour authentification. Un autre élément c'est qu'il faut savoir, toute offre d'emploi qui, dès le départ, vous demande de l'argent, c'est de l'aventure. Comme j'ai dit, l'entreprise a des moyens suffisants pour son fonctionnement et par conséquent n'a pas besoin de l'argent d'un candidat.
D'ailleurs, sur cette question-là, à ce sujet, il y a les Nations Unies hein, qui signifient dans tous les appels à manif d'intérêt, dans tous les postes qui sont publiés, il y a cette mention, les Nations Unies ne perçoivent aucun frais à un quelconque stade du processus de recrutement, demande d'emploi, entretien, traitement, formation, d'autres frais quelconques. Donc les Nations Unies déjà avise, hein, notifie les demandeurs d'emploi de cette consigne qu'on ne demande aucun frais à l'étape du recrutement.
D'ailleurs, nous, dans la plupart maintenant de nos offres, nous précisons que le recrutement est non payant et donc gratuit. Et donc, toute histoire d'information en termes d'argent, de données de biens, de services, ne sont pas acceptées. Et donc, veillez à dénoncer.
Oui, mais ce qui est étonnant, malgré cette mention-là, il y a des gens qui se laissent quand même berner.
Oui, mais parce que simplement, ça, c'est maintenant, ce n'est pas simplement un problème des autorités. C'est aussi un problème maintenant de la population, de la psychologie individuelle. Les gens devaient aussi avoir un niveau d'estime de soi important. Quand vous avez un niveau d'estime de soi très faible, vous ne voulez pas vous ressourcer. Quand vous avez déjà une information, mais il faut chercher l'information. Il faut vérifier auprès des amis. Quelqu'un, par exemple, qui vous dit qu'il travaille, par exemple, il vient auprès de vous pour l'UNICEF. Mais moi, je connais, par exemple, des gens qui travaillent à l'UNICEF. Je connais, par exemple, des gens qui travaillent à
la... Ou à la limite, déplacez-vous, allez jusqu'au bureau pour vous renseigner.
Mais une personne qui débarque dans votre province pour vous dire qu'il vient pour créer une entreprise, est-ce qu'il a présenté aux autorités les actes fondateurs? En termes de statut légalisé, autorisation de fonctionnement, est-ce qu'il a présenté tous ces éléments?
Les documents qui nous donnent droit de faire ça, oui.
Ça, vraiment, atteste le niveau de la naïveté que nous sommes, nous tous, et également du côté de certaines autorités. Comment quelqu'un peut s'embarquer dans votre province, il vous dit qu'il vient créer, et vous n'exigez pas pour voir les documents fondateurs? C'est compliqué quand vous vous lancez déjà dans cette aventure. De deux, c'est que il faut être exigeant en matière de recherche d'informations, demander l'entreprise, mais utilisez, appelez les amis que vous connaissez pour vérifier l'information. Sachant déjà que l'environnement est devenu turbulent en termes d'un grand nombre d'escrocs, il faut être prudent, rechercher l'information, vérifier effectivement l'information et puis également être attentif. Toute une histoire d'information en termes d'argent pour les recrutements, c'est une fausse information. D'ailleurs, comme vous allez le constater, ces amis-là, ils mettent en scène ce qu'on a appris à l'école primaire, les corbeaux et les renards. Donc, vous êtes les corbeaux avec votre fromage et les renards sont en bas en train de vous lancer des bonbons et des mots du genre, monsieur, c'est un emploi qui va
rémunérateur,
qui va vous valoriser, vous aurez un véhicule de service, tout. Donc, ils sont en train de vous flatter effectivement comme les renards. Vous allez laisser tomber les fromages et ils vont manger les fromages, ils vont partir.
Comment démasquer les faux recruteurs d'emploi? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94 et au numéro 081-890-63-94.
L'actualité en profondeur sur Radio Caprice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Retournons au standard pour donner cette fois-ci la parole à trois auditeurs. Jonas, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour M. Tati, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue dans Capi Service, allez droit au but. Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Je n'ai pas de questions, mais un témoignage, mais je pense qu'il faut voir.
Un témoignage, allez-y rapidement. Oui.
Alors, l'année passée, avant le début des opérations de révision du fichier électoral, j'avais été victime d'une escroquerie vraiment à ciel ouvert.
À ciel ouvert.
J'avais reçu l'appel de quelqu'un dont j'étais le nom pour besoin de confidentialité. Et c'est une dame, elle était à mon édit tout, elle avait reçu aussi l'appel de son ami. Qui lui disait, à Kananga, on est en train de recruter les gens pour travailler à la CENI.
Okay.
Et c'est un ami à moi qui l'a suivi appelé. Bon. Puis là, lui a dit, bon, je ne suis pas à Kananga, je suis à mon édit. Il lui a dit, non, non, fais vite une recommandation, si tu as les tiens à Kananga, tu l'appelles. Elle m'a appelé, elle m'a passé le numéro de quelqu'un que je pouvais contacter et puis c'est à Kananga. Alors, celui-là, il s'appelait un certain ingénieur Richard. Donc, comprenez que non, notrement identifié. Alors, j'appelle directement le monsieur, il me dit, ah oui, c'est toi, Jonas Kabinda. Oui, on vient de me faire une recommandation de Bukavu, mon ami, le médecin qui est à Bukavu. Alors, tu envoies les unités de $3. Cette fois-là, en unité, c'est encore 1000 francs. J'ai envoyé je me suis précipité, j'ai envoyé les unités. Après, il m'a dit, bon, tu apportes des photos passeport. Je suis sorti, je me suis fait photographier, je n'avais pas de photos sur place. Je lui ai apporté. Après, il m'a dit, il faut verser dans mon compte M-Pesa. Cette fois, c'était $10, oui. Je me suis endetté, j'ai envoyé $10. Et après, là où je me suis dit que ce monsieur, c'était un escroc. Il m'a dit, bon, demain, présente-toi devant le bâtiment de Mokassai. Pour ceux qui connaissent le géant bâtiment que nous avons en étage, ici à Kananga. Alors, je me suis présenté là à 8h. J'appelle le monsieur, il me dit, oh non, le véhicule vient de passer, tu attends le deuxième tour parce que on doit vous être nombreux. Mais, minute de la carte, on aime. Et si tu n'as pas cette carte-là, tu apportes $50. Je lui dis, mais non, il y a le service en même ici, je peux prendre la carte.
Jonas, donc à chaque étape de la négociation, il demandait des sous. Envoyez-moi les unités, envoyez-moi de l'argent dans une PSA.
À chaque étape. Il y avait toujours à chaque étape. Et là où c'était pire, maintenant, la carte d'honneur que nous procurions à l'époque à 1000 francs seulement, lui me réclamait $50. Je lui ai dit, ok, j'arrive. Je suis arrivé, avant d'arriver là où il était, je suis passé à la CENI me renseigner. Est-ce qu'il y aurait un certain ingénieur Richard qui est venu de Kinshasa recruter les gens pour les opérations de révision du fichier électoral? On m'a dit, non, c'est un escroc celui-là, on ne le connaît pas. Je me suis dit, Seigneur, je suis tombé dans les filets d'un voleur. Alors, quand tu m'as demandé $50, je lui ai dit, j'ai déjà la carte en elle. Il dit, non, est-ce que toi tu connais la carte en elle? Je lui ai dit, mais monsieur, pour qui me prenez-vous? J'ai la carte en elle avec moi. Il avait éteint le téléphone jusqu'à aujourd'hui. Je me suis tourné contre celui-là qui m'avait appelé, qui m'avait branché à lui, avec des menaces. Il m'avait remis tout mon argent. Et après, Dieu merci, ce monsieur-là m'a fait, après un long moment, il était tombé dans le filet de la police, il était arrêté.
On l'avait arrêté.
Oui, il était arrêté. Il n'y a pas que celui-là. Même beaucoup de maîtres avocats sont tombés victimes d'une escroquerie. Il y avait quelqu'un qui était venu leur dire qu'il y a un projet qui coûterait beaucoup d'argent. Il a fait vous enregistrer. Nombreux se sont précipités, mais ce monsieur-là avait fui. Et tout le monde était désolé. Donc,
merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage, Jonas. C'est très édifiant, votre témoignage. Allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à Jean-Baptiste. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati Mapoukou. Bonjour aussi à l'invité.
Allez droit au but. Quelles sont les questions que vous voulez poser à notre invité?
J'ai juste deux témoins. Il y a eu un monsieur qui m'a déjà envoyé beaucoup de messages sur Facebook, sur mon compte WhatsApp, en disant que oh, monsieur Jean-Baptiste, vous avez de l'argent, on va vous donner un poste dans un grand hôpital quand vous êtes infirmier. Maintenant, j'ai juste deux questions.
Oui, allez-y.
Comment détecter un vrai recruteur des agents et quel est le site vrai pour l'offre d'emploi?
Merci beaucoup Jean-Baptiste. Notre invité David Pata va vous donner les principes hein, pour détecter les vrais recruteurs défauts. Donc, on va lui donner la parole. Donnons cette fois-ci la parole à Monsieur Dieudonné. Il est à Arou. Bonjour. La ligne n'est pas bonne. Dieudonné, nous allons vous rappeler. Hein. La liaison n'est pas très très bonne avec la ville d'Arou. Monsieur David Pata, le premier intervenant du Canada, il a donné son témoignage.
Il y a une leçon à tirer, c'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire que dans le processus, n'est-ce pas, des manipulations, notre cher ami Jonas s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait nécessité de rechercher l'information. Or, il faut rechercher l'information
en amont.
Ça, c'est effectivement, ça c'était un piège. En fait, et tous nos amis, et quand vous êtes dans une situation comme ça, la première des choses, il faut rechercher d'abord l'information. Il faut être exigeant en termes de la recherche d'information. Pourquoi vous devez être exigeant? Parce que si une entreprise vient vers vous, parce que vous disposez, n'est-ce pas, des atouts dont elle trouve nécessaire.
Elle a besoin.
Donc, elle a besoin.
Pour le fonctionnement.
Donc, c'est comme vous allez dans un marché, vous avez le sel à avoir un produit, tout le monde viendra vers vous. Même donc, si vous êtes exigeant et qu'ils font partie, ils seront obligés de revenir pour négocier. C'est ça, ce que vous devez savoir. Donc, il faut être exigeant en matière de recherche d'informations. En ce qui concerne les critères des vrais recruteurs, un vrai recruteur ne demande pas l'argent. Moi, j'ai piloté pas mal je suis David Pata, donc je suis directeur de recrutement à Sodeco. J'ai piloté des recrutements à Lubumbashi. J'ai piloté des recrutements pour l'installation, par exemple, des filles banques à Lubumbashi, à Goma, presque partout. Aucune personne vous dira qu'il a été recruté parce que simplement on lui a demandé de l'argent. Aucune. Et donc, j'ai plus de 10 ans en matière de recrutement, d'expérience. Personne parmi les gens que j'ai des projets que j'ai pu piloter, même la fois dernière, de la fonction publique, aucun candidat vous dira que M. Pata avait demandé l'argent et je lui ai envoyé l'argent. C'est ainsi que j'ai été retenu. Donc, quand un recruteur commence déjà à vous parler d'histoire d'argent, sachez-le que c'est vraiment de l'aventure, de l'anarque, il ne faut pas vous emballer. Maintenant, par rapport au site de publication, un vrai recrutement, vous allez être publié soit par l'entreprise elle-même, n'est-ce pas, avec des insignes, n'est-ce pas, de son identité de l'entreprise, et également les sites, d'abord les sites, et puis vous avez un autre site qui est très connu, qui est le site de l'emploi,
des Mediacomo.net par exemple, Okapi Emploi, et aussi la Chronique Emploi.
Et il y a également des sites, n'est-ce pas,
spécialisés,
comme vous avez les recrutements, vous avez Sodeco, vous avez encore d'autres agences qui explicitement précisent. Et puis après, quand, je répète encore une fois de plus, par rapport à l'adresse d'envoi des documents ou d'informations, si on vous utilise une adresse classique du type ordinaire comme Yahoo, Facebook, que tout le monde peut avoir, même avec 1000 francs, dans un cybercafé, dites-vous que ce n'est pas sérieux. Ça sont effectivement des indicateurs, n'est-ce pas, qui peuvent. Et puis après, quand il y a un emploi publié, si vous avez des doutes sur cet emploi, informez-vous auprès des structures locales, notamment le ministère du Travail, sa division provinciale. Vous pouvez également vous informer au bureau, par exemple, de l'ONEM qui est tout près de vous, qui peut vérifier l'information pour vous, ou carrément, appeler des amis, n'est-ce pas, qui sont dans d'autres provinces, des références, auprès de qui vous pouvez également trouver des informations en termes de vrai ou de faux.
Mais il y a aussi un flou total hein, pour ceux qui travaillent, par exemple, dans des contrats journaliers. Nous voyons pas ici à Kinshasa, à Limete, où des gens viennent devant une entreprise et puis il n'y a aucun document, aucun avis vacances et postes, mais des gens qui viennent là, qui se renseignent des bouches à l'oreille, et parfois c'est difficile de recouper les informations dans ces contextes.
Dans ces contextes-là, comme j'ai dit, si on vous demande de l'argent dès le départ, c'est faux. Parce que si le monsieur, il veut avoir de l'argent, allons dans une hypothèse où vraiment vous avez quelqu'un qui veut se faire de l'argent, qui travaille au sein de cette entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que vous n'avez rien, vous allez vous convenir, vous allez travailler, après vous allez lui donner le dû. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas, quand il y a une telle négociation. Alors, mais le monsieur ne peut pas d'emblée commencer à vous exiger l'argent pendant qu'il ne vous a pas encore fait engager. Donc, si vous allez dans une optique où le monsieur veut vraiment se faire de l'argent parce qu'il travaille, il va vous laisser travailler, vous allez vous convenir, c'est à la fin du mois que vous allez penser à lui.
Oui.
C'est dans ce sens-là. Mais ça également, ce sont des actes à dénoncer.
Des pratiques à dénoncer.
Des pratiques à négocier, à dénoncer. Mais l'emploi ne peut pas appauvrir les sans-emploi. C'est ça, en fait, nous devons aller dans cette logique-là. Donc, à partir du moment où une entreprise, soi-disant, commence à avoir besoin de l'argent, de votre argent, dites-vous que vous allez souffrir quand vous allez entrer dans cette entreprise-là.
Je crois que la liaison est établie cette fois-ci avec M. Dieudonné, qui nous appelle depuis Yaro. Bonjour.
Bonjour à toi, Capus. Dieudonné, tu m'as parlé territoire d'Yaro.
Bonjour, allez-y. Allô? Oui, allez-y, posez votre question.
Oui, j'aimerais savoir quelle autre idée nous aperçut ce que si un faux recruteur est déjà démantelé, que prévoit la loi pour qu'il soit vraiment incarcéré? Parce que, surtout même, voici notre réseau social actuellement, la société mobile de Vodacom a occasionné beaucoup de piraterie, beaucoup de faux recrutements. J'avais voulu savoir uniquement si la l'idée peut nous aperçut, comment maintenant, une fois, comment peut attraper de telles personnes? Parce que, que prévoit la loi après de ça?
Merci beaucoup, Monsieur Dédonné. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Harou. Allons cette fois-ci à Colouzi pour donner la parole à Séraphin. Bonjour. Séraphin, vous êtes en ligne.
Je voulais intervenir par rapport au sujet. Le sujet est très intéressant. Alors, je vous donne maintenant un cas que j'avais commis ici au niveau de la province. Quelqu'un qui m'appelle, M. Séraphin. C'est toi, M. Séraphin. Bon, au départ, il connaissait déjà mon nom. Je dis oui, c'est moi, M. Séraphin. Il me donne un numéro, Vodacom, prenez ce numéro, vous appelez ce monsieur-là, comme ça, à 12h, une entreprise quelconque est en train de recruter les gens. J'ai dit, bon, ça va, j'ai pris le numéro, appelez ce monsieur-là. Je l'ai appelé, bon, le monsieur me dit, oui, monsieur Séraphin, venez vite, vous savez, il me dit, vous êtes où? Je dis, non, je suis quelque part. Il dit, non, venez vite, nous sommes au niveau de 14e rue. Il me donne l'adresse, j'ai dit, bon, mais monsieur, désolé, maintenant je suis à Colombie. Il dit, non, ce que je vous dis, c'est vrai, même si je suis à Colombie, envoyez maintenant votre dossier, voilà, c'est un travail là que vous serez vraiment très bien rémunéré à partir de $500 et au plus. Il me dit, bon, ça va, ok, mais si je trouve le temps, je vais venir pour maintenant donner maintenant les dossiers. Alors, maintenant, j'ai une question. Maintenant, dans tout ça, d'abord, l'État a identifié tous les numéros, que ce soit Vodafone, que ce soit RTL, que ce soit Orange. Maintenant, dans tout ça, quelle est la part de l'État? L'État fait quoi par rapport aux escrocs comme ça qui nous appellent par un téléphone qui nous disent des histoires comme ça? Quel est l'État dans ces histoires-là? Mais l'État nous identifie, l'État aussi pouvait identifier ces escrocs-là, parce que ils vont aussi leur numéro de téléphone quand ils nous l'appellent. Alors voilà la première question. La deuxième question, mais c'est très compliqué. Si par exemple les escrocs se font comme ça, même dans une entreprise, parce que les messieurs parlent très bien, que non, une entreprise sérieuse, où nous devons avoir telle des informations. Mais pour avoir tout ça, vous allez, même nous sommes là, pour aller à cette entreprise qui a vraiment une sérieuseté, vous arrivez là-bas. Mais on répond encore à la question, qui vous a dit des noms et si on récrive les gens? Là que nous avons toutes les informations. Alors il nous dit, qui vous a dit que si on récrive les gens? Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ce sont des pièges que nous sommes en train de descendre, nous ne pouvons pas les surmonter, nous sommes incapables de surmonter tous ces pièges-là. Alors maintenant, je dis, le temps a identifié tous les gens qui sont maintenant dans les réseaux, parce que c'est lui qui contrôle aujourd'hui tout ça. Est-ce qu'il ne pouvait pas régulariser vraiment au niveau même de l'Assemblée, au niveau même, je ne sais pas où, alors on peut trouver une solution durable pour maintenant mettre à tous les délais.
Merci beaucoup Séraphin. Merci beaucoup Séraphin. Je crois que l'invité va nous répondre à tes préoccupations. Monsieur okay. David, il y a Dieudonné, Darou qui voulait savoir, une fois qu'on met la main sur l'individu, l'escroc, est-ce qu'on peut, on peut le faire arrêter? On peut le dénoncer auprès de la police?
Évidemment. Donc, quand vous faites des transactions, des échanges d'informations, il faut les garder comme preuve. Et quand vous vous piégez, il faut piéger le monsieur avec la police. Il est arrêté, il sera jugé, il y a des dispositions. Ces cas d'arnaque, c'est du vol, c'est de l'escroquerie et il y a des dispositions. En ces termes-là, le monsieur sera jugé.
Le pouvoir public doit également
assainir,
organiser le secteur.
Et informer également la population et être souple. N'est-ce pas, par exemple, les policiers, quand vous informent, par exemple, qu'il y a tel cas d'escroquerie et qu'on vous amène des preuves matérielles, il faut les saisir. Ça, c'est une chose.
Certaines entreprises aussi entretiennent les flous dans le recrutement. Séraphin l'a évoqué. Il était victime de ça. Il est allé se renseigner auprès de l'entreprise. Et au sein de l'entreprise, on lui dit, mais qui vous a donné cette information-là?
Donc, c'est que l'entreprise ne recrute pas. Donc, l'entreprise lui disait que moi, je ne recrute pas. Mm. C'était ça, l'information. C'est-à-dire que si vous allez à l'entreprise, il vous dit... Nous ne recrutons pas. Il ne faut pas vous entêter en disant que non, vous recrutez dans le silence.
Dans l'estime,
moi, je fais à tout prix. Là, vous allez vous faire anarcher. C'est ça, effectivement, le problème. Un autre aspect, voilà le chemin. Un autre chemin qui peut déjà vous indiquer que vous êtes dans un chemin.
Donnons la parole au dernier auditeur, comme ça, nous allons revenir à vous. Trésor, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour, monsieur. Merci beaucoup parce que j'ai suivi le. L'invité avec beaucoup d'intérêt.
Mmh.
La situation devient très catastrophique dans notre ville ici. Même moi qui vous parle ici, je suis la victime à peu près trois fois. Mais la situation qui se passe maintenant en cours, je vous dis, il y a des gens qui ont affiché des choses, ils disent fondation Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire c'est une fondation qui recrute des gens pour leur donner des emplois.
Mmh.
Et quand vous arrivez dans leur bureau, ils vous demandent 10 francs d'abord d'inscription. Cette situation-là, je me demande, comme je suis la victime trois fois, j'ai dit, je ne peux pas donner ces 10 dollars-là. Cette fois-ci, j'en ai marre. Dans la situation, nous sommes fatigués de tous côtés, de tous coins. Vraiment, qu'ils nous donnent la meilleure possibilité d'identifier ces gens. Pour l'air dénoncer, ça pourrait être mieux. Merci beaucoup.
Mais, trésor, merci. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Guémena, David Pata.
Donc, le schéma déjà qui peut déjà vous amener, ça c'est le schéma téléphonique. D'abord, quand déjà quelqu'un qui vous appelle pour vous dire que voilà,
allez.
Qui vous dit déjà que voilà, je vais vous passer à une autre personne rapidement. Vous allez comprendre que ce monsieur ne veut pas vous donner le temps de poser des questions pour les découvrir. Vous devez soupçonner déjà qu'il y a du faux. Deuxième, il va vous placer un intermédiaire. L'intermédiaire, également, dans sa conversation, il ne vous laisse pas suffisamment du temps pour les découvrir.
Oui.
Donc, lorsque vous vous trouvez déjà dans un contexte où vous sentez que votre interlocuteur, il vous fournit plus d'informations et il ne veut pas vous laisser le temps de réflexion, même un minimum de temps, vous devez savoir déjà que vous êtes l'objet des manipulations. Prenons maintenant la question en ce qui concerne les contrôles téléphoniques. Mais vous savez bien qu'ici, chez nous, il y a encore du désordre de ce côté-là. Pour obtenir une carte, c'est facile. Vous n'avez pas besoin de présenter un document, de présenter là où vous habitez.
Au coin de rue, vous payez 500 francs, on vous donne
la
carte.
Oui, et qu'est-ce qui se passe? C'est que la régularisation, la soi-disant régularisation, vient bien après. Bien après. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces aventuriers... Ces anarchiens, ils vont profiter de la situation pour s'acquérir de 10-20 cartes. Ils vous appellent avec ça, 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 et au bout, n'est-ce pas, de l'action.
Vous n'avez plus retracé les appels.
Et puis, ils les déchirent. Mm. Ils ne peuvent même être détectés parce qu'ils ne s'est pas fait identifier. L'identification vient bien après. Vous allez comprendre. Ça, c'est aussi une chose. C'est que vous devez aussi savoir également. Mais quand une structure vous demande de l'argent, comme cette fondation, mais il faut dénoncer aux autorités. Prenez, n'est-ce pas, des messages où ils vous ont demandé de l'argent, présentez aux autorités pour qu'ils soient jugés. Parce que, simplement,
quelqu'un qui cherche l'emploi ne peut pas, n'est-ce pas, donner quoi que ce soit. Vous parlez de l'argent, mais encore d'autres types, n'est-ce pas, de services qui sont demandés, n'est-ce pas, qui ne sont pas ici exploités. Et je souligne le fait que ce phénomène n'est pas seulement un phénomène congolais, c'est un phénomène universel, mais le phénomène trouve un milieu propice parce que, simplement, le pays est dans un état de crise totale et généralisée.
Mais quel doit être le pouvoir, le rôle du pouvoir public hein, dans les secteurs?
Le pouvoir public doit d'abord réguler les services de télécommunications en termes de contrôle, ça c'est un de deux. Le pouvoir public doit communiquer, sensibiliser la population sur tous ces phénomènes. Le pouvoir public doit faire un effort considérable pour créer des emplois. Comme ça, les emplois vont régorger, vont absorber, réduire, n'est-ce pas, les taux, n'est-ce pas, des chômages. Ce qui fera que, puisque vous avez beaucoup de gens qui vont travailler, même ces escrocs-là vont trouver de l'emploi. Un bon emploi qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'arrêter cette mauvaise pratique. Mais cette pratique, disons-le, elle est aujourd'hui en extension dans d'autres réalités. Notamment, il y a quelqu'un qui vous appelle pour vous dire rapidement, Monsieur Tati, nous avons quelqu'un qui vient de connaître un accident grave. Il est dans un état, n'est-ce pas, compliqué. Est-ce que vous pouvez rappeler
rapidement?
Vous raccroche. Et vous, parce que nous avons trouvé votre numéro dans son téléphone. Puisque vous êtes un être humain, ils utilisent des émotions primaires. Vous allez rappeler, c'est en ce moment quand vous allez rappeler, ils vont vous dire, nous n'avons pas d'unité, essayez un peu de nous appeler. Et puis après, ils vont commencer maintenant à vous emballer dans l'histoire, envoie des unités, est-ce qu'on pouvait envoyer quelque chose?
Ah non, le plus important, il faut être prudent, la prudence est vraiment conseillée en la matière, bien vérifier les informations. Si c'est possible, déplacez-vous, allez vous renseigner auprès de l'entreprise ou posez la question aux amis.
Dans ce type de communication, vous avez d'un côté l'État qui doit prendre en charge, qui doit communiquer, créer des emplois, mais aussi des agents, des candidats qui doivent rechercher l'information, être prudents.
Je le considère comme votre dernier mot, Monsieur David Pata. Je rappelle que vous êtes un spécialiste en ressources humaines.